20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
La fête, ce sont souvent des réveils qui peuvent être douloureux. Pas seulement à cause du mal de crâne ou des descentes, mais aussi parce que le monde mis entre parenthèses le temps d'une nuit est toujours là. Notre sujet aujourd'hui, ce sont les fêtes nocturnes, toutes ces nuits qui disparaissent jusqu'au lever du soleil. Est-ce que les fêtes nous aident à changer le monde ou sont-elles juste une façon de le supporter? Sont-elles un désastre sur le plan écologique ou une façon de désarmer les désastres à venir? On va parler de cette ambivalence. Car la fête, c'est à la fois la marge et la standardisation, la contestation et la consommation. Les endroits luxueux, les ciels étoilés, les amis furtifs et les rencontres éternelles. Des excès salvateurs et des exclusions terribles. Salut Sarah.
Salut Antoine.
Salut Sonia.
Salut tous les deux.
Alors, première question que j'ai envie de vous poser. On a peut-être pour certains d'entre nous pas fait la fête pendant le confinement dans nos appartements ou les petits groupes d'amis entre lesquels nous étions. Fête et gestes barrières. Fest et Covid et masques et distance, comment fait-on, Sonia?
Ouh là là, c'est une dure question. Est-ce qu'on est obligé de porter des masques quand on fait la fête? Alors c'est sûr que pour respecter les gestes barrières, c'est un peu mieux, mais je crains que malgré tout, fête et gestes barrières soient antinomiques.
Eh ben moi, confinement a été synonyme de beaucoup de fêtes, en fait. Alors, pas des grandes fêtes avec beaucoup de monde, mais on était confinés à 6. Et le Covid a été l'occasion d'augmenter drastiquement notre consommation d'alcool.
Comme beaucoup de Parisiens. Le nombre de bouteilles en verre jetées à Paris, alors que le nombre de Parisiens avait diminué, donc le nombre de bouteilles en verre avait explosé au contraire.
Donc bientôt plus de bouteilles vides que de Parisiens.
Mais ça révèle aussi un besoin de s'oublier un peu, alors pas dans sombrant dans un alcoolisme qui peut être très destructeur, mais de s'évader un peu. Et nous, il y avait vraiment ce côté-là de tout oublier, de tout lâcher à un coup et juste de rigoler en picolant peut-être un peu trop. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
C'est dit.
Avec ou sans masque.
Avec ou sans masque, tout à fait.
Alors c'est vrai, tu disais Sarah, oublier, s'oublier un petit peu, mais c'est dans la fête, il y a quelque chose qui fait qu'on quitte son identité sociale. Il y a un temps à part où les lois habituelles du jour, ce qui fait notre vie au quotidien, ces lois semblent tout d'un coup bien moins lourdes.
Bah oui, la fête, c'est un peu s'oublier pendant un temps. Si je parle de mon expérience personnelle, je commence à vieillir et à fatiguer, mais j'ai beaucoup fait la fête. Et c'est vrai que ça te permet pendant un temps, avec des gens aussi différents, parce que la fête, c'est aussi la rencontre de l'inconnu, des inconnus.
J'ai eu des conversations incroyables avec des gens que je ne connaissais pas dans des endroits où je ne suis jamais revenu.
Exactement. À 2h du matin, tu arrives à avoir des discussions incroyables et des rencontres incroyables.
C'est
des choses qui m'étaient nécessaires pendant très longtemps.
Et c'est un temps improductif aussi. Ça veut dire que cette fois, quand on est en train de faire la fête, on n'est pas dans la machine économique. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consommation. On voit bien qu'il y a des consommations. Il faut acheter des choses. On n'est pas hors de la consommation, mais on est hors du temps, peut-être productif.
Tout à fait. D'ailleurs, on se demande si, du strict point de vue rationnel, on peut se demander pourquoi on fait la fête. On va se déglinguer la tête, se fatiguer pour strictement rien. Et d'ailleurs, pour faire la fête, il a fallu qu'on puisse travailler moins pour avoir l'énergie de faire la fête. C'est seulement quand le temps de travail diminue que vraiment les gens vont pouvoir beaucoup plus faire la fête qu'avant.
Bah oui, mais je trouve ça hyper intéressant en fait dans notre monde capitaliste de productiviste et de croissance d'avoir encore ces temps finalement d'improductivité. Et c'est ce que tu dis, en fait tu fais la fête, bah en fait t'es crevé le dimanche, t'es crevé ton lundi matin, t'es moins efficace au travail. T'as tout à fait raison, c'est pas très rationnel de faire la fête et pourtant on adore ça.
D'ailleurs, les patrons du 18e siècle, des premières usines, théorisaient le fait qu'ils faisaient beaucoup travailler les ouvriers parce qu'ils disaient que tout le temps qu'ils auraient de libre, ils le passeraient à picoler dans les bars.
Mais ils avaient
finalement
pas tort.
Ben voilà, bien vu de leur part. Non, mais c'est vrai que la nuit visait à se remettre en état de quoi ? Ben de travailler le lendemain. Et on peut très bien comprendre que c'est pas très désirable en soi. Il y a un sentiment de liberté dont on a besoin, une envie de lâcher prise. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'écrasant, de pesant. Est-ce que vous pensez que les angoisses climatiques vont faire partie aussi de ces choses qui vont nous donner envie de faire la fête, simplement parce qu'à un moment donné, la pression sera trop grande?
Bah, je pense que en partie, oui, la fête, ça te permet de faire sortir de toi, d'expier un certain nombre d'angoisses pour un petit moment. C'est pour ça aussi que je pense qu'il y a des vrais, il y a des gens qui ne sont pas capables de s'arrêter de faire la fête. Tu as envie que ça continue, tu vas en after, tu vas en after d'after, en after d'after d'after, parce que tu t'accroches à un temps où tu oublies un peu la réalité des choses, la réalité difficile, les problèmes du quotidien. Et donc, effectivement, ça permet vraiment d'être dans ta petite bulle pendant quelques temps.
Et puis il y a ce qui se passe dans l'expérience physique de danser. Tout ce qui se passe, sentir son corps, une espèce de sentiment d'unité, de libération.
Montre-nous tes petits pas de danse.
Ça, je vous assure que vous n'avez aucune envie de voir ça. Non, mais vraiment, je danse hyper mal, je suis tout rigide. Mais bon, voilà, c'est une rigidité dans laquelle je sens un peu de liberté. Puis voilà, on fait l'expérience de son corps. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, dans le travail, dans la vie en société, des choses qui nous dissocient, qui fait de nous des petites unités, transportées, travaillant, etc. Et il y a un moment de puissance. J'ai envie d'employer un mot dont on parle beaucoup d'ailleurs, post-Covid, de souveraineté. Voilà, c'est la souveraineté de soi. On est de nouveau en train d'habiter son corps.
Bah, pas toujours. Hein. Je trouve quand même que parfois, il arrive, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience aussi de votre côté, où on fait la fête de manière un peu automatique, sans plus savoir pourquoi on est là, pourquoi on est en train de danser, où on a ce moment un peu à se regarder les autres, parce que peut-être on est un peu moins bourré que les autres.
Non, mais c'est vrai qu'on est aussi dans une société peut y avoir des formes d'obligation à faire trop la fête.
Obligé d'être cool. Et de faire la fête, exactement. Et de voyager, pour faire une petite référence à un autre épisode.
Et en plus, je trouve qu'il y a vachement de tension aussi. La fête, ça nous renvoie à notre côté un peu animal, je trouve. Quand t'es dans une grosse soirée, que tu vois tout le monde s'agiter dans tous les sens, tu dis que c'est un peu bizarre, que c'est bizarre d'avoir besoin de tout ça. Et il y a aussi, je trouve, une fête qui a pu s'individualiser. Par exemple, tu parles de la danse. Moi, j'adore danser, j'adore tout lâcher prise et tout. Mais l'histoire de la danse est extrêmement intéressante parce qu'on allait vers une danse de plus en plus individuelle.
C'est vrai, ouais.
On est parti de la danse de groupe un peu populaire, de village, à la danse à deux, les danses de salon, pour arriver à la tectonique, où tu danses tout seul devant ton miroir. Et je trouve ça assez intéressant, cette évolution.
D'ailleurs, on est passé des fêtes le jour aux fêtes la nuit, où on ne se voit plus les uns les autres, ce qui va un peu dans ton sens, Sarah.
Oui, on est caché par la lumière des dance floors. Alors, il y a autre chose qui, isole, c'est que la fête, elle est aussi largement excluante. Hein. C'est pas seulement le fait de se retrouver tout seul à danser qui peut parfois nous isoler, c'est que simplement, il y en a qui ne franchissent pas les portes de l'endroit où on va danser.
Vu le prix des boîtes de nuit, oui. C'est pas étonnant.
Et puis, je pense qu'au-delà du prix, bien sûr, qui est excluant, il y a aussi la question d'avoir le temps, finalement, de faire la fête dont tu parlais. C'est vrai qu'on a plus de temps qu'avant, mais je pense à une maman qui travaille, ou un papa normalement aussi, mais je ne sais pas pourquoi
maintenant,
ce sera plus les mamans.
De plus en plus le cas, normalement.
Une maman qui travaille et qui a 3 enfants à sa charge, en fait, même le week-end, c'est compliqué d'aller faire la fête jusqu'à 3-4 heures du matin. Mmh. Et puis, y a plein de choses difficiles dans la fête. Pour une femme, il y a le harcèlement.
Bien sûr.
Pour les personnes racisées, le fait de se faire refuser à l'entrée des boîtes de nuit.
Exactement. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui font que la fête n'est pas une grosse bulle de bonheur.
Et c'est vrai que les inégalités ne disparaissent pas. C'est le sexisme, le racisme ne vont pas, disons, être engloutis par les pas des danseurs sur les dance floors. Je parle de disparition. Il y a autre chose aussi qui, pour le coup, disparaît vraiment. C'est les lieux physiques où l'on fait la fête en France. Avec la fermeture de beaucoup de boîtes de nuit dans le pays, on est passé de 4000 dans les années 80 à environ 2000 dans les années 2010. Donc on voit bien qu'on est en train de fermer. Et malgré tout, le besoin de fête, il reste là.
Oui, on aime de plus en plus une ville que je qualifierais d'hygiéniste, où il n'y a pas trop de bruit, où c'est pas trop sale. Or, la fête, c'est du désordre. Donc, j'ai envie de révéler un petit scoop, mais nous nous trouvons dans le quartier de Pigalle. Et ce quartier a profondément changé. C'était un quartier de fêtes, de prostituées, de clubs, et qui aujourd'hui alors reste un quartier où il y a encore des boîtes de nuit, mais qui a quand même radicalement changé.
Et puis moi, ce que je trouve un peu triste, c'est que la fête, effectivement, a de plus en plus disparu. On la tolère de moins en moins. Et elle disparaît aussi, notamment dans les milieux plus ruraux, dans les campagnes. Et on va se mettre en place des choses que je trouve géniales, comme des discos mobiles ou des bars mobiles, qui vont de petits centres-bourgs en centres-bourgs, où même le café a fermé. Parce que, encore une fois, la fête, c'est pas obligé d'être l'énorme tôle.
Bien sûr,
à 5000 jusqu'à 6 heures du matin. Ça peut être juste à la sortie du travail, aller boire une bière ou même un Perrier. Personne n'est obligé de boire.
Est-ce que vous connaissez les balles guinguettes? encore sur les bords de la Marne.
C'est marrant parce que ça revient un peu à la mode aussi d'avoir ces choses un peu plus populaires finalement, plus douces.
Alors ce qui a connu une évolution assez forte dans le temps, c'est les rêves parties. Moi je me souviens quand j'étais petit, j'habitais à Nantes au collège lycée, donc je voyais des titres sur les rêves parties, mais de mes yeux de très très jeune adolescent, il y avait un truc, le discours qui accompagnait ça, c'était un discours complètement flippant. Hein. Des gens qui mouraient par overdose comme ça, la campagne saccagée. Enfin, il y avait vraiment un truc, tu te disais, voilà, il a fallu voir ça différemment avec le temps, Sonia.
Alors qu'il y avait au contraire, au départ, un véritable idéal de libération, de révélation, de se retrouver, de sortir du système qui existait au départ de ces rave parties ou de ces free parties. Qui, comme le nom l'indique, n'indiquait pas simplement que c'était free, gratuit, mais un idéal de liberté la plus complète.
Oui, et sur ça, je vous conseille Heretic, We Had a Dream, qui est un reportage que vous trouverez sur YouTube, qui revient un peu sur l'histoire de ce collectif de musique français. Et je trouve ça extraordinaire, je pense que ça ne pourra jamais réarriver. Ils ont, en 2001... fait une fête avec des milliers de personnes, une fête clandestine, dans la piscine Molitor, qui était encore désaffectée à l'époque, en plein milieu du 16e arrondissement. Ils ont fait la fête jusqu'au petit matin.
Je suis trop dégoûtée d'avoir été trop jeune.
C'est génial quand même, je trouve.
Bah, c'est certain qu'à mon avis, vu le prix d'entrée maintenant, dans cet endroit, je pense qu'en tout cas, il n'y aura pas des milliers de personnes qui iront faire la fête. Et tu parles de 2001, c'est marrant parce que c'est quand même une époque où tout n'était pas diffusé via WhatsApp, les boucles mails, les textos, etc. Et pourtant, quand même, même dans les années 90, c'était possible de se retrouver, de faire passer des infos. On va partager avec vous un bon plan. Juste un conseil, ne le suivez pas forcément, parce qu'en fait, voilà, c'était il y a quelques années maintenant, mais bon, on ne sait jamais.
Il est 11h du soir. Pour informer les fêtards, un message est laissé sur un simple répondeur.
Pour ceux qui sont véhiculés, vous allez prendre la 1, vous prenez l'aire de repos Vémarest et vous nous attendez là, on vient vous chercher pareil. À peu près toutes les heures, voire toutes les demi-heures si on peut. Voilà, donc à partir de maintenant pour les caisses, c'est parti. À plus tard.
C'est parti la fête.
Allez, viens viens
Direction une aire d'autoroute, un point de ralliement qui a cet avantage pour les organisateurs de permettre de garder secret jusqu'au dernier moment le lieu où est censé se tenir la soirée.
Ah. Si jamais vous êtes en bagnole, sortez pas tout de suite, hein, quand même.
Moi, j'ai trop envie d'y aller.
Moi, franchement, d'avoir entendu la musique, ouais, là, j'ai eu envie de danser sur ma chaise.
Attends,
en fait, ça me manque.
En post-confinement, on est tous terriblement en manque, c'est affreux.
Alors, le manque, c'est même parfois l'excès quand on pense à des fêtes alors qui sont pas aussi sympathiques. Hein. Je crois qu'on là, on le dira assez franchement. Les full moon parties en Thaïlande, moi, j'ai regardé des vidéos, c'était un peu. Alors, j'ai jamais fait de full moon party en Thaïlande, j'ai jamais été en Thaïlande. Mais on a l'impression que là, c'est un petit peu le pire finalement, à la fois de la fête de masse et du tourisme de masse.
Oui, alors on peut penser aussi à Ibiza avec ses plages bondées, sa pollution sonore et lumineuse, les embouteillages, la pénurie d'eau potable qui rendent en fait...
Les déchets.
Exactement, qui rendent une partie de l'île, complètement quasi inhabitable et cauchemardesque pour ses habitants.
Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont les choses évoluent dans le temps. Ça veut dire, au départ, on a l'impression que parfois, ça peut naître d'un projet assez alternatif qui conteste les choses. Et puis, ça va être englouti par la machine. Alors, il y a un philosophe qui a parlé de zone d'occupation temporaire pour éviter la récupération, ni marché, ni État. Il s'appelle Hakim Bey. D'ailleurs, l'acronyme de son truc, c'est TAS. Donc, il fait référence
petit
à des substances qui circulent en soirée.
Lesquelles,
mais
Antoine
un exemple que je trouve intéressant, c'est le Burning Man.
Bah oui, parce qu'au départ, le Burning Man, ça partait plutôt d'une bonne intention. Il y avait une politique vraiment zéro déchet. Donc, tout ce que tu ramènes, tu dois le remporter avec toi. Il n'y a pas d'argent sur place, tu fonctionnes juste sur le troc. Tu as une vraie liberté, tu as des formes de cours presque où on t'apprend le respect, le consentement. Tu peux tout faire, mais il faut que l'autre ait dit oui, etc. C'est une liberté totale. Mais tout ça a été de plus en plus dévoyé, notamment avec le Burning Man aux États-Unis où maintenant, il faut payer méga cher pour rentrer. Tu as des zones réservées aux plus riches. Et puis malgré tout ça, pour aller faire la fête aux États-Unis ou en Afrique du Sud où il est né, faut plutôt avoir de l'argent si tu n'habites pas là-bas pour te payer le billet d'avion. Et j'ai ma petite sœur qui allait au Burning Man en Afrique du Sud, qui a adoré, mais qui dit quand même, t'as pas un seul noir dans la fête. Donc encore, on a quand même un petit problème, mais il y a parfois des volontés dans la fête de changer les choses, de proposer aussi un autre modèle, un petit système différent le temps de la fête.
Je voulais juste vous raconter, en 2007, pour le spectacle, ils ont monté une tour de forage de 30 mètres de haut.
Ah oui, quand même.
Qu'ils ont fait brûler. Donc, ils ont fait brûler plus de 300 000 litres de kérosène, 55 000 litres de propane.
Oh bah, c'est pas tout du tout écolo, cette fête. Hein.
Tout ça pour propulser horrible. Un nuage en forme de champignon à 100 mètres de hauteur.
Non, c'était lors d'un Burning Man, c'est ça ?
Oh ouais, celui de 2007. Et en plus, si j'ai bien compris, c'était pour critiquer l'utilisation du pétrole. Quoi.
Bah, faudra qu'on nous fasse un schéma parce que là j'ai pas bien compris l'explication hein.
Et juste pour finir, ils ont créé aussi un site internet, le Cooling Man, qui calcule le bilan carbone des participants.
Bon, c'est déjà ça. Alors à la fête, on a l'impression, alors il y a les champignons effectivement de kérosène, mais une question que je me pose souvent, c'est en fait, est-ce que c'est pas aussi faire en sorte que les choses continuent sans que rien ne change, puisque voilà, on va au Burning Man, on se prend pour un rebelle, on met une petite couronne de fleurs, des tatouages lumineux dans le noir, et ensuite on revient et sans jugement moral. Mais en tout cas, que ces fêtes qui prétendent remettre les choses en cause font peut-être en fait qu'on accepte que les choses ne bougent pas.
Est-ce que tu me poses la question, Antoine, la fête est-elle l'opium du peuple ?
Et pourquoi pas, tiens.
Eh ben, peut-être, sans doute un peu. Enfin, je sais que moi, ça m'a permis pendant longtemps d'être un déversoir aussi de ma semaine et de penser à autre chose. Alors, je le dis, avec l'âge, ça devient de plus en plus compliqué de déverser tout ce que je veux le week-end parce que le retour à la réalité est souvent beaucoup plus compliqué.
Parce qu'on est plus fatigué.
Tu parlais d'opium, je me souviens d'un témoignage dans une très belle émission sur France Culture, on mettra le lien, de quelqu'un qui disait, mais voilà, c'est pas une messe que de faire la fête ensemble, mais c'est une cérémonie. Et oui. Dans une époque qui manque de lien, disait cette personne, de transcendance, bah voilà, il y a quelque chose d'une expérience collective qui là peut-être aussi avoir quelque chose de politique.
Oui, d'ailleurs, on le voit très très bien, cette expérience de la cérémonie dans les livres, le dernier livre de Virginie Despentes, qui décrit quelque chose de l'ordre, oui, vraiment ouais. De la magie où les gens sont envoûtés par la fête qui est en train de se dérouler.
Alors l'envoûtement, c'est le rapport aux éléments aussi. Tu parlais tout à l'heure des free parties qui se font dans la nature. J'en ai parlé avec mon petit frère qui m'expliquait que bah, quand il voyait le...
J'ai l'impression que nos petits frères et nos petites sœurs ont plus fait l'expérience de la fête que nous.
On va essayer de voir s'ils se connaissent hein, parce que c'est peut-être fait ensemble. Mais il me disait, quand on voit le soleil se lever sur une chaîne de montagne, eh ben oui, il y a un rapport qui est différent. Et lui, il avait son cendrier de poche pour pas mettre de mégots dans ce paysage parce qu'il y avait une espèce de lien quand même qui se crée avec l'endroit où on est.
Bah oui, et puis c'est ce côté sur les free parties où tu fais avec les éléments, en fait, tu n'essaies pas de les contrôler, de les contrecarrer, s'ils flottent, tu danses sous la pluie, s'il y a de
c'est
la
vrai,
boue,
t'as raison,
tu danses dans la boue, et c'est ça tout le principe de ces fêtes, oui, où il y a un petit retour quand même à la nature. Alors en général, enfin ça dépend des fois, on espère que c'est sans trop les polluer, il y en a d'autres où on n'en a rien à faire et on laisse des désastres écologiques
en fait,
derrière.
Ça dépend, c'est très dur de généraliser, hein, de dire free party, rave party, comme si c'était un bloc homogène. Ça dépend évidemment de qui se trouve là. Il y a des situations très différentes.
Oui, et puis visiblement, ça a beaucoup évolué et mal évolué depuis le début des free parties dans les années 90, où aujourd'hui, les gens y viennent juste parce que c'est gratuit. C'était au début un mouvement plutôt d'extrême gauche qui maintenant a évolué aussi politiquement, puisqu'on trouve des brigades anti-caille dans les free parties qui sont en fait des mouvements d'extrême droite.
Ce qui est terrible, alors qu'au départ, justement, c'était des endroits où tu pouvais espérer trouver un peu plus de mixité sociale.
Exactement.
Où tu avais justement le Parisien qui prenait sa voiture pour y aller, mais tu avais aussi le mec qui habitait dans le petit village d'à côté, des mecs plus de banlieue. Et c'est vrai que ça a sûrement dû se perdre un peu, même si je ne suis pas une spécialiste des free parties, je dois bien le dire.
L'autre difficulté, on ne peut pas faire parler de la fête sans bien sûr parler des substances, des psychotropes. Nous saluons Christophe Castaner qui a sans doute glissé une oreille sur ce podcast à ce moment-là. Mais c'est vrai quand même, on parlait de rapport aux éléments, donc d'harmonie, d'évasion. Bah, l'évasion, dans certaines fêtes, elle est largement sous substance.
Ah bah dans une free party, c'est une évidence que tu as, je pense, un énorme pourcentage de gens qui sont sous, notamment sous extase, sous MD, etc., qui permettent aussi de s'évader. Alors, nous ne ferons pas d'apologie de la drogue, hein, surtout que...
Alors, surtout qu'il y a des bilans bilan quand même écologique très lourd. Alors...
Désastreux,
alors,
oui, ouais, même.
Pas forcément des drogues que tu décris, mais par exemple, le bilan écologique de la cocaïne, c'est une catastrophe absolue. Alors, ne serait-ce que parce que c'est un mode d'agriculture comme un autre, qui nécessite des pesticides, de la déforestation, et qui, comme il n'est pas légal, ne respecte aucune règle. C'est aussi quand les États essayent de lutter contre la culture de la drogue et de la coca en particulier, notamment les États-Unis, en Colombie, ont déversé des litres et des litres de glyphosate, ce qui a complètement rendu incultivables ces territoires.
Et puis l'impact social sur les populations, les meurtres liés au trafic de la cocaïne, pour que nous, petits Européens, on puisse aller faire la fête jusqu'au bout de la nuit, c'est assez terrifiant, mais... voilà, alors sans alcool, la fête est bien sûr plus folle, mais la fête.
Sarah, c'est
on
trop.
Doute,
trois
on
fois.
Doute de ta sincérité.
Non, mais c'est fini, Sarah. C'est trois fois tu fais des pubs pour le nom d'alcool, alors je ne sais pas qui te sponsorise, mais là, c'est effectivement le ministère de la Santé ou autre, mais c'est bizarre.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas faire les bénis, oui, je ne sais pas d'où je sors cette expression, mais la fête est. Il y a quelque chose avec l'alcool, les drogues.
De l'ordre de la transgression, de la marge, de l'exploration, de la quête individuelle.
Exactement.
Antoine, d'ailleurs, a un cocktail dont il doit nous faire la
pub. Oui, alors c'est le vin Mariani. Alors, parce qu'on dit toujours la drogue, c'est diabolique. Enfin, ce côté diabolique a été très souvent créé par les États à la fin du 19e. Et le vin Mariani, alors c'était un vin avec des feuilles de coca macérées. Et avant la Première Guerre mondiale, on en vendait 10 millions de bouteilles. Donc c'est un petit vin tonique. Hein, ça vous donne un petit
coup de boost.
Ah ben, nous, c'est avant chaque émission, un petit peu de vin Mariani. Ça, avec les copains, ça nous met bien.
Et donc, pour voir les liens entre les États institués et l'exploitation de la drogue, on vous conseille également un super documentaire sur Arte dont on vous mettra le lien.
Et ça montre bien que notre rapport aux excès, ce vin Mariani si vanté par la pub est désormais interdit, que notre rapport aux excès et aux substances évolue dans le temps. Ce qui était autorisé hier ne l'est plus et inversement. Donc on verra avec le temps et on verra aussi avec le poids de l'urgence écologique peut-être ce qui pourra devenir légal dans les fêtes telles qu'on les vit et les vivra, qui ne l'est peut-être pas encore aujourd'hui. En tout cas, il y a un besoin de relâchement qui risque pas du tout de disparaître. Et au contraire, même de s'intensifier.
Surtout en cette fin de confinement.
Oh oui.
Oh oui.
Merci Sonia.
Merci beaucoup à vous deux.
Merci Sarah.
Merci beaucoup.
Salut.